morceaux, bah, vous l'avez compris, Macron, mais il y a Trump, hein, mais il y a Poutou. J'aurais voulu vous mettre Poutou. Ah, je vous mettrai Poutou ce week-end parce que la radio sera bien sûr à Rock in the Barn. Cet artiste sera à Rock in the Barn. Voilà, il y en a une douzaine, quinzaine d'artistes présents sur les deux jours de ce site de Vernon. On est avec Agathe Plaisance, la directrice du festival. On big up Léna, la programmatrice, et l'ensemble des bénévoles et des protagonistes, techniciens, techniciennes, qui œuvrent pour nous offrir une belle et dernière édition. C'est affirmé, c'est eux qui l'ont décidé, et c'est la plus belle des fins que de le choisir. Ce sera ce vendredi 11 et samedi 12 septembre à Vernon. En compagnie de Solène aussi et de Caroline, merci pour votre présence et votre premier temps d'antenne radiophonique.
Merci.
En espérant que ça a été, que ce soit un bon souvenir, le SMABI, vous représentez, qui porte ce projet, voilà, de ce village de sensibilisation, avec des simulateurs, avec des démonstrations, avec des gens qui peuvent répondre à des questions que vous poseriez sur comment réagir face à une problématique improbable. Eh ben, c'est mardi et mercredi prochain, place d'Hôtel Le Ville. Merci.
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 Bonne journée. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.
National 9h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Lors d'un nouveau journal, Martin Guez avec à la une ces révélations de la presse israélienne qui engagent directement la responsabilité de Benjamin Netanyahou.
Qui, selon le quotidien Haaretz, avait été mis au courant en amont de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Dans un livre-enquête, des journalistes révèlent que les Émirats Arabes Unis avaient directement prévenu le Premier ministre israélien, qui n'aurait alors pas bougé. Le bureau de Benjamin Netanyahou hurle mensonge. Mais voilà une nouvelle révélation fracassante et embarrassante pour le dirigeant israélien avant les législatives du mois d'octobre. En Allemagne, après la claque, le jour d'après, notamment pour l'AFD, le parti d'extrême droite qui se demande comment gouverner en Saxe-Anhalt et comment capitaliser. Le jour d'après aussi pour la CDU, du chancelier Friedrich Merz, pointé du doigt comme principal responsable de la montée de la formation xénophobe. Nous serons ensuite en France, où s'ouvre un important procès 5 ans après l'un des trop nombreux drames survenus en mer de la Manche. Un procès qui pourrait éclairer sur les filières de passeurs qui sévissent entre la France et l'Angleterre. Et puis enfin, la Ligue des Champions reprend ses droits aujourd'hui. Le Real, club le plus titré de l'histoire de la compétition, est l'un des premiers clubs sur le pont face à l'Inter Milan. Kylian Mbappé espère lui enfin remporter la Ligue des Champions qui manque toujours à son riche palmarès.
Et on commence donc avec ces nouvelles révélations fracassantes en Israël qui mettent de nouveau dans l'embarras le Premier ministre.
La semaine passée, Benjamin Netanyahou avait déjà dû monter au créneau, pointé du doigt pour son manque de réactivité le jour de l'attaque du 7 octobre par le Hamas. Le Premier ministre avait alors vivement critiqué son armée qui ne l'aurait pas réveillé à temps. Cette fois-ci, la presse israélienne se fait l'écho d'autres révélations. Selon le quotidien Haaretz, qui publie un livre-enquête, Benjamin Netanyahou aurait été en effet averti en amont par le président des Émirats Arabes Unis que le Hamas préparait une attaque. Et on retrouve en direct de Jérusalem notre correspondante Frédéric Misselin. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Frédéric, une enquête qui pointe à nouveau les manquements du gouvernement israélien à quelques semaines des législatives cruciales dans le pays. Benjamin Netanyahou qui se défend et qui évoque des mensonges.
Oui, Mohamed Ben Zayed et Benjamin Netanyahou ont l'habitude de se parler, dit Haaretz. Il y a même une procédure. Un diplomate émirien se rend au bureau du Premier ministre israélien avec un téléphone sécurisé 10 jours avant le 7 octobre 2023. Donc, les deux hommes discutent pendant 45 minutes. Mohamed Ben Zayed avertit le Premier ministre israélien. Le Hamas prépare une attaque. Il faut s'attendre à un tremblement de terre. Haaretz cite un conseiller émirien qui a eu une connaissance directe de la conversation. L'enquête est basée sur des dizaines de sources. 3 hauts responsables étrangers étaient au courant de l'échange téléphonique. À l'époque, en 2023, les Israéliens et le Hamas discutent de façon indirecte de libération de prisonniers palestiniens. L'accord n'avance pas. Le Hamas menace directement, mais l'intermédiaire redoute de donner l'information au Shin Bet. Il redoute aussi de ne pas la donner. Il se confie donc aux Émiriens au plus haut niveau. Benjamin Netanyahou, lui, n'aurait averti personne. Ni le Mossad, ni le Shin Bet, ni l'armée. Le bureau du Premier ministre israélien parle d'un mensonge absolu et les Émiriens, eux, refusent de commenter.
Merci beaucoup Frédéric Misselin en direct de Jérusalem sur RFI. Israël par ailleurs qui menace l'autorité palestinienne d'une guerre totale après l'attaque au couteau commise par un Palestinien contre un colon dans le nord de la Cisjordanie occupée. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Défense israélien Israël Katz. L'assaillant a été abattu par des militaires israéliens. La Cisjordanie où les violences ont explosé depuis octobre octobre 2023 avec des attaques quasi quotidiennes des colons israéliens et des raids dans des villages palestiniens. Plus de 1000 Palestiniens ont été tués sur cette période.
Et la violence des colons en Cisjordanie occupée, c'est le sujet de notre grand reportage du jour signé justement Frédéric Misselin. C'est à écouter 19h10, heure de Paris sur RFI. Des sites énergétiques à l'arrêt en Arabie Saoudite, Martin, après ces salves de tirs des Houthis depuis le Yémen.
Qui ont fait au moins 73 blessés, des frappes qui ont notamment visé des sites économiques, comme le géant pétrolier Aramco, des bombardements auxquels la coalition menée par Riyad a promis de répondre, alors que depuis jeudi, sur le territoire yéménite, des affrontements entre les forces gouvernementales soutenues par l'Arabie Saoudite et les rebelles pro-iraniens ont fait au moins 300 morts.
L'Allemagne sous le choc, le chancelier Friedrich Merz aussi.
Et qui s'est dit profondément choqué par la victoire de l'AFD lors des élections régionales en Saxe-Anhalt. 44% des suffrages pour la formation d'extrême droite, seulement 17% pour la CDU, le parti de la droite conservatrice du chancelier, accusé par les sociodémocrates d'avoir utilisé une rhétorique néfaste, ayant créé de l'inquiétude et de la méfiance. Friedrich Merz a assuré qu'il tenterait de mieux expliquer ses futures réformes à l'avenir. L'AFD, elle, fait sauter un plafond de verre, une première depuis 1945. Elle espère désormais poursuivre sur sa lancée, Pascal Thibault.
Le chancelier vacille et l'AFD cherche à ne pas trébucher sur sa victoire de dimanche. En Allemagne, les cartes sont redistribuées et rien ne va plus. La mine défaite, bien moins sûre de lui qu'à l'habitude, Friedrich Merz a reconnu la pire défaite de son parti depuis des décennies. Le chancelier veut poursuivre les réformes en profondeur du pays, mais mieux les expliquer. Mais ses partenaires sociodémocrates sont de plus en plus nombreux à avoir des états d'âme. Dans son parti sonné, Friedrich Merz n'est pas remis en cause. L'Allemagne vote à nouveau dans deux régions dans deux semaines. Mauvais moment pour régler ses comptes. L'AFD savoure, elle, sa victoire historique en Saxe-Anhalt, mais le parti d'extrême droite n'est pas au bout de ses peines pour gouverner. Faute de majorité absolue en siège, il lui faut trouver un partenaire ou débaucher quelques élus chrétiens-démocrates. Mais l'AFD veut une solution stable pour gouverner sur la durée. Des arrangements en coulisses n'en sont pas la garantie. Le parti espère en tout cas que le succès de dimanche va lui profiter le 20 septembre dans le Mecklembourg et à Berlin. La coprésidente du parti veut, lors des prochaines élections générales en 2029, atteindre la barre des 40%. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et quelques milliers de personnes se sont elles rassemblées hier soir dans les rues de Berlin, la capitale allemande, appelant à stopper le parti d'extrême droite de l'AFD. 2 morts et 10 blessés cette nuit à Kiev, la capitale ukrainienne, où les frappes russes ont repris quelques minutes après l'expiration de la mini-trêve de 3 jours conclue entre la Russie et l'Ukraine, sur le temps de la visite des émissaires de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff.
2 semaines après la catastrophe qui a frappé le Népal et la Chine, il ne reste presque plus d'espoir de retrouver des survivants.
D'autant que les dernières opérations de secours sont d'une extrême difficulté dans des souterrains quasiment inaccessibles. Une crue meurtrière qui a fait au moins 1399 morts entre le nord du Népal et la région chinoise du Tibet. Mais le bilan est extrêmement déséquilibré. Seulement 43 décès et 500 disparitions ont été comptabilisés côté chinois. Les autorités de Pékin se montrent très discrètes. Un silence radio désespérant pour les familles des disparus qui espèrent toujours. Mélissa Barra.
Nitu Goyal Tiwari, ressortissante britannique de 51 ans, était en pèlerinage lorsque les crues ont frappé. Elle se rendait au mont Kailash, un site sacré pour les hindous et les bouddhistes, au cœur des plateaux tibétains. De Londres, elle s'est rendue à New Delhi où vit une grande partie de sa famille, puis à Katmandou pour traverser la frontière par la route. Elle n'est jamais rentrée en Inde où l'attendait son frère Naresh.
La Chine ne communique qu'au travers de l'ambassade britannique. Je parle au quotidien avec le mari de ma sœur. On lui dit qu'il n'y a aucune information. Nous traversons une épreuve très difficile.
Ce silence des autorités chinoises, d'autres familles en souffrent, explique Naresh Goyal, qui a constitué sur les réseaux sociaux un groupe avec les proches des disparus étrangers, parmi lesquels 15 sont des citoyens britanniques.
Il y a aussi des gens d'Australie, des États-Unis, du Canada, de Finlande, de Russie et d'Afrique du Sud, mais personne ne réussit à avoir des nouvelles.
Interrogé à ce sujet en conférence de presse fin août, le porte-parole des affaires étrangères chinois, Kuo Xiaokun, a assuré que la Chine faisait preuve d'ouverture, de transparence et de rapidité dans la diffusion des informations. Les diplomaties britanniques et françaises n'ont pas donné suite à nos sollicitations.
Et côté Népal, le pays observait hier un premier jour de deuil national, alors que les pays célèbrent aujourd'hui le premier anniversaire du renversement du gouvernement par la Jetzen de népalaise l'an dernier.
RFI à Paris, 89 FM et en DAB+.
En France, la mer de la Manche reste l'une des pires routes de la migration en Europe.
Avec en point d'orgue ce naufrage dramatique en novembre 2021, 31 candidats à l'exil meurent entre la France et l'Angleterre. Seuls deux passagers ont survécu à cette nuit. Ce mardi, 14 personnes accusées d'être des passeurs vont devoir s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Paris. Bonjour Marie Cazadebé.
Bonjour.
Parmi ces hommes, a priori aucune tête de réseau, mais ce procès pourrait nous éclairer sur l'organisation criminelle qui a fait payer plus de 3 000 euros par personne pour des places à bord d'un bateau gonflable de mauvaise qualité et dépourvu de gilets de sauvetage adaptés.
Oui, ces hommes, ces prévenus sont soupçonnés d'avoir transporté, hébergé les exilés ou encore d'avoir récolté l'argent de la traversée. La plupart nient être des passeurs. Certains se présentent comme des migrants eux-mêmes, mais leurs profils ont dit long sur la structure des réseaux criminels qui agissaient à l'époque sur les côtes françaises. Maître Emmanuel Daoud est l'un des avocats des parties civiles. Il défend la famille d'une victime éthiopienne.
Vous avez deux branches, une branche afghane et une branche dite irako-kurde. Ils n'ont pas tout dit. Évidemment, la situation est compliquée pour eux car ils ont des membres de leur famille qui sont dans les pays en question. Donc, il y a des risques de représailles. On verra si on arrive à remonter ces filières. Mais on sait déjà que le trafic des êtres humains est la deuxième source de revenus après le narcotrafic pour les réseaux criminels.
Et il y a 5 ans, Marie, au moment du drame, ce sont donc ces deux réseaux qui se partageaient la plus grande partie du business, à savoir des traversées illégales dans le nord de la France.
Oui, mais depuis, clairement, ce sont les réseaux kurdes irakiens qui se sont emparés des principaux points d'embarquement côtier au détriment des Kurdes iraniens. Les autres nationalités africaines ou afghanes travaillent désormais sous leurs ordres. Selon le récent rapport du Global Initiative, une ONG experte du crime organisé, cette mainmise s'expliquerait ?
Yeah. I know it's be the death of me. Yeah, I know. At least we've both been numb. She'll always, always get the best of me. The worst is yet to come. This I know. Yeah, she told me, don't worry about it. Yeah, she told me, don't worry no more, no more. Never be alone. Oh, yeah. I can feel my face when I'm with you. I can feel my face when I'm with you. And I love it. Yeah, I love it. I'm with you. We'll be right back.
told me to fuck or to find yourself some proof and I'm done. Oh, oh, I'm done. You just soak in the hatred of a sorry line. Yeah, you hide behind the corn and a fake smile.
Sur votre ville et ses petits secrets, Radio Corbeau.
Allez, laissez tomber maintenant.
Radio Corbeau.
Ce serait plutôt de vous occuper de cette radio, elle est illégale.
Permettez-moi qu'à porter plainte.
Et sinon, changez. Pour le mix des cultures, c'est sur le 102.4 à Évreux, 95.9 dans le sud de l'Eure et sur www.principactif.net.
Belém, veio da Mata Virgem.
viendra par centaines ou par milliers sans bouclier. C'est pour tous mes oubliés, je ne pliais sous quarantaine. J'ai quelques anges pour m'escorter. Allez viens, marquons le siècle. C'est pour les miens, mon cercle et tous ceux qui m'ont apporté. N'écoute pas ce que les gens veulent, toi seul peux dicter ta vie. Si tu veux fermer des grandes gueules, commence par ouvrir ton esprit. Mais n'ouvre pas trop ton cœur si tu leur permets d'entrer. Une fois à l'intérieur, elles se mettront à t'éventrer. C'est ma thérapie session, mes obsessions, ma vision trouble. Mon art, mon évasion, mes émotions qui se dédoublent. Je continue mon ascension sans prétention ni vanité. Donc à créer tes dimensions pour qui voudra s'y abriter. Tu feras souvent les mauvais choix, par fierté ou par orgueil. Tu reviendras sur tes pas car on ne s'en sort jamais seul. Prends cette vie comme un test, ne te laisse pas casser. Tu peux voir le temps passer, mais pas seul qu'il te reste. En toi la neige n'a pas fondu, c'est ton cœur qu'elle a troué. Ils te diront que tu t'es perdu alors que tu t'es jamais trouvé. La plupart font semblant d'être, donc ne perds pas ton temps à partager ton banc avec des gens qui ressemblent à des traîtres. Sois prudent, fais de ton mieux, car très peu sont les gens fiables. Au fond, celui qui se prend pour Dieu a sûrement les yeux du diable. La solitude les ronge, avec l'âge grandit la peur. Tu crois qu'ils nagent dans leur bonheur, mais ils se noient dans leurs mensonges. C'est pas le genre de truc à dire, mais ne me raconte pas d'histoire. Tu prends même plus de plaisir quand tu te fais jouer tous les soirs. Et c'est toujours la même rengaine. Toi tu rêves d'une autre danse, de rose et de romance, d'amour à l'américaine. Tu te sens toujours incompris, ouais, y compris à deux. Si t'as quelqu'un dans ta vie, c'est juste pour te fuir un peu. L'autre fait sûrement pareil. Bah ouais, t'es pas vraiment dupe. À vivre sans soleil, les fleurs ont fané sur ta jupe. Les hypocrites et les vautours, leur faire la guerre n'a rien d'aisé. Que cette rime leur fasse l'amour trop romantique pour les baiser. T'es quasi imperceptible, ton entourage croit tout savoir. Pourtant tes murs invisibles, ils ne peuvent même pas les voir. Et du fond de ton être, tu es ton propre cercueil. Qui prétend te connaître, se fout sûrement le doigt dans l'œil. Tu passes pour un pessimiste, alors qu'en vérité, t'es juste un optimiste, triste de réalité. En vrai, tu ne parles pas des masses, tu t'effaces quand ça cause trop. T'es pâle comme un hosto, tu manques d'espace comme un claustro. C'est toujours le même problème, toi qui aimes tant voyager. Quand tu fais le tour de toi-même, bah t'as juste l'air d'un naufragé. La nostalgie coule à l'envers, sur ton visage en deuil. Depuis la mort de ton frère, t'es comme un arbre sans feuilles. J'écris quand le ciel se couvre, au milieu de la nuit, pour que les miens se retrouvent.